Chapitre 3. L'astrologue. Nous laisserons le maréchal de Danville, aux prises avec sa haine et sa rage, chercher quelque moyen de frapper à mort les pardaillants et de s'emparer de Jeanne pour la cacher jusqu'au jour qu'il croyait proche, où la maison de Lorraine édifierait sa fortune sur les ruines de la maison de Valois, où Charles IX tomberait sous quelques balles en même temps que son frère Henri d'Anjou, et où Henri de Guise mettrait sur sa tête la couronne de France. Nous laisserons également François de Montmorency, la pauvre folle et Loïse, dans la maison du savant Ramuse, où les nécessités de notre récit nous rappelleront bientôt. 3 jours après les événements qui se sont déroulés, 3 jours après la rentrée triomphale du roi dans sa ville, comme 10 heures du soir sonnait à Saint-Germain-l'Auxerrois, 2 hommes marchaient lentement dans la nuit qui enveloppait les jardins du nouvel hôtel de la reine. Sur l'emplacement actuel de la halle au blé, bourse de commerce, s'était élevé jadis l'hôtel de Soissons, non loin de l'hôtel de Nesle. Ce qui s'appelle aujourd'hui rue Coquillère s'appelait dans ce temps-là rue de Nesle à cause de l'hôtel de ce nom. L'hôtel de Soissons était borné par les rues du Four, de Grenelle et des Deux Écus. Sous Charles IX, la rue des Deux Écus portait en partie le nom de la rue de la Hache. La ruelle traversine donnait dans la rue de la Hache. C'est sur ce vaste emplacement de l'ancien hôtel de Soissons et de l'ancien hôtel de Nesle que Catherine de Médicis avait fait bâtir une façon de palais, en même temps qu'elle s'occupait de faire construire un palais plus vaste, plus grandiose, plus royal, sur l'emplacement de l'ancienne Tuilerie où nous avons eu l'occasion de conduire nos lecteurs dans un précédent ouvrage. Catherine de Médicis avait l'amour de la propriété. La possession de la terre était un plaisir pour cet esprit actif qui s'ingéniait à combiner des plans de bâtisse. Catherine, donc, avait acheté les vastes jardins et les terrains vagues demeurés en friche autour de l'hôtel de Soissons en ruine. Elle avait fait jeter bas les pierres branlantes, des régiments de maçons s'étaient employés à faire sortir de terre, comme sous le coup de baguette d'une fée, un hôtel jeune, brillant, d'une élégante magnificence, et une armée de jardiniers avait, autour de l'hôtel de la reine, fait jaillir les plantes, les arbustes et les fleurs. Dans ces jardins, Catherine, qui toute sa vie regretta l'Italie, avait fait transplanter à grands frais des orangers, des citronniers, des fleurs aux violents parfums qu'on ne trouve que sous les brûlants soleils de la Lombardie et du Piémont. Elle aimait toutes les voluptés, toutes les ivresses, tous les parfums, le sang et les fleurs. Et c'est au bout de ces jardins, dans l'angle d'une sorte de cour qui s'avançait dans la direction du Louvre, que, sur les ordres et les plans de Catherine, s'était élevée la colonne d'ordre dorique encore debout, dernier vestige de tout cet harmonieux ensemble de construction. Cette colonne, espèce de tourelle sur laquelle on peut lire l'inévitable inscription dont les sociétés archéologiques, de complicité avec l'État, souillent les débris de l'histoire humaine, cette tour, disons-nous, avait été spécialement construite pour l'astrologue de la reine. C'est vers cette tour que se dirigeaient les 2 ombres que nous venons de signaler. Ombres, car Ruggieri et Catherine, c'étaient eux, s'avançaient en silence, vêtus de noir tous deux, et n'eussent apparu aux yeux d'un curieux que comme des fantômes, si les gardes qui veillaient à toutes les portes eussent laissé pénétrer ce curieux. Catherine de Médicis et Ruggieri s'arrêtèrent au pied de la colonne. L'astrologue tira une clé de son pourpoint et ouvrit une porte basse. Ils entrèrent et se trouvèrent alors au pied de l'escalier qui montait en spirale jusqu'à la plateforme de la tour. Là, c'était un cabinet, ou plutôt un étroit réduit, où Ruggieri rangeait ses instruments de travail, lunettes, compas, etc. Pour tout meuble, il n'y avait qu'une table chargée de livres et 2 fauteuils. Une étroite meurtrière donnant sur la rue de la Hache laissait pénétrer l'air dans ce réduit. Et c'est par cette meurtrière que la vieille Laura, espionne d'une espionne, communiquait avec Ruggieri. C'est par cette meurtrière qu'Alice de Luxe jetait les rapports qu'elle voulait faire parvenir à la reine. Or, ce jour-là, Catherine avait reçu de Laura un billet contenant ces quelques mots. Ce soir, vers 10 heures, elle recevra une visite importante dont je rendrai compte demain. Votre Majesté désire-t-elle que j'allume un flambeau ? Demanda Ruggieri au moment où il referma derrière lui la porte de la tour. Au lieu de lui répondre, Catherine saisit vivement la main de l'astrologue et la pressa comme pour lui recommander le silence. En effet, elle venait de percevoir un bruit de pas qui, dans la rue, s'approchait de la tour. Et Catherine de Médicis, qui eût été un policier de premier ordre, qui avait effectivement inventé et créé toute une police masculine et féminine, se disait d'instinct que ses pas étaient sans doute ceux de la personne qui devait faire à Alice de Luxe une importante visite. La reine s'avança vers la meurtrière et chercha à voir ce qui se passait. Et comme les ténèbres étaient profondes, comme elle ne voyait rien, elle se plaça de façon à entendre et à concentrer dans son ouïe les forces vitales inutiles à ses yeux. L'oreille, pour celui qui espionne, est un agent plus actif et plus sûr que l'œil. Les pas se rapprochaient. « Des passants !» fit Ruggieri en haussant les épaules. « Croyez-moi, Majesté !» Et il élevait la voix, comme s'il eût voulu être entendu, eût-on dit, des gens qui venaient. « Silence !» murmura Catherine d'un ton de menace qui fit pâlir l'astrologue. Les personnes qui marchaient dans la rue, quelles qu'elles fussent, ne pouvaient en aucune façon se douter qu'elles étaient ainsi épiées. Elles s'arrêtèrent près de la tour, non loin de la meurtrière, et la reine entendit une voix d'homme, qu'on eût dit voilée d'une indéfinissable tristesse et qui la fit brusquement tressaillir. La voix disait « J'attendrai ici votre majesté. De ce poste, je surveille à la fois la rue Traversine et la rue de la Hache. Nul ne saurait arriver à la porte verte sans que je lui barre le chemin. Votre majesté sera donc en parfaite sûreté. » « Je n'ai aucune crainte, comte, » répondit une autre voix, voix de femme cette fois. « Déodate !» avait sourdement murmuré Ruggieri en pâlissant. « Jeanne d'Albret !» avait ajouté Catherine de Médicis. « Tais-toi, écoutons !»« Voici la porte, madame, » reprit la voix du comte de Marillac. « Voyez, à travers le jardin, apparaît une lumière. Sans aucun doute, elle a reçu votre messager. Elle vous attend. Ah, madame !»« Tu trembles, mon pauvre enfant !» Jamais je n'éprouvais pareille émotion de ma vie qui en contient pourtant quelques-unes qui furent ou bien douces ou bien cruelles. Songez, Majesté, que ma vie se joue en ce moment. Quoi qu'il advienne, je vous bénis, madame, pour l'intérêt que vous daignez me témoigner. Déodate, tu sais que je t'aime à l'égal d'un fils. Oui, ma reine, je le sais. Hélas, c'est une autre qui devrait être où vous êtes. Tenez, madame, quand je songe que ma mère m'a certainement reconnue dans cette entrevue du pont de bois, quand je songe qu'elle a vu mon émotion, touché ma plaie, sondé ma douleur, et que pas un mot, pas un geste, pas un signe d'affection ne lui ait échappé, qu'elle est demeurée glaciale, impénétrable, formidable de rigidité. » Le comte laissa échapper un geste de violente amertume et le bruit étouffé d'une sorte de sanglot parvint jusqu'à Catherine, qui demeura impassible. Seulement, une lueur de rage et de haine s'alluma dans les yeux gris de la reine. « Courage !» fit Jeanne d'Albret pour détourner le cours des pensées du jeune homme. « Dans une heure, je l'espère, je vous apporterai un peu de joie, mon enfant !» À ces mots, la reine de Navarre traversa rapidement la rue et alla frapper à la porte verte. L'instant d'après, la porte s'ouvrait et Jeanne d'Albret pénétrait dans la maison d'Alice de Luxe. Le comte de Marillac, les bras croisés, s'accota à la tour et attendit. Sa tête touchait presque à la meurtrière. Quelles furent les pensées de ces trois êtres pendant les longues minutes qui, une à une, tombèrent dans le silence de la nuit ? L'astrologue, le père. La reine, la mère. Déodate, l'enfant. Ils n'étaient séparés que par l'épaisseur du mur. Par un imperceptible mouvement très lent, Ruggieri s'était placé de manière à empêcher Catherine de passer son bras par la meurtrière. Quel horrible soupçon traversa donc son esprit ! Catherine était toujours armée d'un court poignard acéré, arme florentine dont la lame portait d'admirables arabesques, tandis que le manche d'argent, ciselé jadis par Benvenuto, était à lui seul une merveille. Bijou terrible dans les mains de la reine. Et Ruggieri frémissait d'épouvante. Car la pointe de ce poignard, il l'avait trempée lui-même de subtil poison, et une seule piqûre de ce précieux objet d'art était mortelle. Qui sait si la reine ne l'eut pas, cette pensée d'allonger subitement son bras et de frapper ? Quoi qu'il en soit, elle demeura immobile, figée, comme fut immobile l'astrologue, comme fut immobile le comte de Marillac. 11 heures sonnèrent, puis la demie. Il eût été impossible de percevoir même le souffle de ces vivants, pareils à des morts. Enfin, comme le dernier coup de minuit s'envolait lourdement par les airs, la reine de Navarre quitta la maison d'Alice de Luxe. Le cou tendu, éperdu d'angoisse, le comte la vit venir sans pouvoir faire un pas. Catherine s'apprêta à écouter. Mais Jeanne d'Albret, s'étant approchée du comte de Marillac, lui dit simplement « Venez, mon cher fils, nous avons à causer sans retard !» Et tous deux s'éloignèrent alors. Lorsqu'ils eurent disparu, Catherine de Médicis murmura « Maintenant, tu peux allumer ton flambeau !» L'astrologue obéit, et il apparut alors livide, quoique sa main n'eût pas un tremblement et que son regard fût calme. Catherine, l'ayant considéré attentivement, eut un haussement d'épaules et dit « Tu as pensé que j'allais le tuer ?»« Oui, » dit l'astrologue avec une effrayante netteté. « Et cela t'a fait peur ?» « J'ai eu peur, en effet, madame. »« Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas sa mort, qu'il peut m'être utile ? Tu vois que je ne songe pas à le frapper, puisqu'il vit encore après ce que nous venons d'entendre. As-tu entendu, toi ? Quant à moi, ces paroles résonnent encore à mes oreilles. René, il sait que je suis sa mère. » L'astrologue garda le silence. Jusqu'ici, j'ai voulu douter. Maintenant, c'est fini. Lui-même a parlé. Il sait, René. » Pour tout autre que Ruggieri, ces paroles de Catherine n'eussent porté l'accent d'aucune émotion. Mais l'astrologue la connaissait, et la voix de sa terrible amante lui apparut si formidable qu'il tint les yeux baissés, n'osant regarder celle qui, en apparence, lui parlait si paisiblement. Sombre, la bouche contractée, les yeux fixés dans la nuit vers le point où le comte avait disparu, la reine reprit. « Tu vois donc que tu peux te rassurer, mon bon René. Ton affection paternelle ne sera soumise à aucune épreuve. » Ruggieri frissonna et la pâleur qui couvrait son visage parut plus livide encore. « Tu es rassuré, n'est-ce pas ?»« Non, madame, » répondit sourdement l'astrologue. « Car je sais que mon fils va mourir et que rien au monde ne peut le sauver. Rien, madame, pas même ma volonté paternelle, pas même la pitié qui pourrait se glisser dans votre cœur. » Catherine, étonnée, jeta un furtif regard sur l'astrologue. « Expliquez-moi cela !» fit-elle en s'asseyant dans un fauteuil et en se mettant à jouer avec la chaîne d'or qui portait son poignard. Ruggieri se redressa. Son visage ne manquait ni de beauté, ni même d'une certaine majesté naturelle. Ruggieri était loin d'être un charlatan. Nature complexe, faible au point d'accepter sans révolte les plus effroyables besognes, implacable dans l'exécution des crimes que seul il n'eût jamais osé concevoir, pitoyable quand il était livré à lui-même, terrible quand il redevenait l'instrument de la reine, il eût sans doute passé sa vie en études et fut devenu un paisible savant s'il ne s'était trouvé sur le chemin de cette femme qu'on peut haïr pour le mal qu'elle a fait, mais à qui nous devons reconnaître une exceptionnelle force de caractère. Dans l'Antiquité, Catherine eût été locuste, ou peut-être Friné. Ruggieri eût peut-être été Empédocle. Son esprit tourmenté aimait à se hausser et à se perdre aux vastes rêveries. Astrologue, il cherchait dans le ciel ce même absolu que, chimiste, il cherchait parmi les poisons. L'art de la divination par les astres n'était pour lui qu'un art intermédiaire. Il cherchait plus haut et plus loin. Connaître l'avenir, se disait-il, c'est le diriger. Quelle redoutable puissance armera l'homme qui parviendra à savoir aujourd'hui ce que demain doit être. Et que devient cette puissance si cet homme peut faire de l'or à sa guise? Tout ne tient-il pas dans la création? Et qu'est-ce que Dieu, sinon celui qui peut soulever les voiles du temps et arracher à la nature son dernier secret? Ruggieri y croyait donc fermement. Sans cesse déçu dans ses calculs, souvent, lorsqu'il avait passé des nuits à chiffrer la déclinaison et la conjonction des astres, il laissait tomber sa plume avec découragement. Mais bientôt, une force nouvelle le poussait, et, avec une froide fureur, il s'enfonçait dans la solution de l'insoluble. Quoi d'étonnant, dès lors, que ce cerveau fatigué ait été hanté de visions. « Madame, dit-il, vous voulez savoir pourquoi mon fils va mourir et pourquoi rien ne peut le sauver? Je vais vous le dire. Lorsque j'ai reconnu mon fils dans cette auberge où vous m'aviez envoyé, je n'ai d'abord songé qu'à vous. Qu'était mon fils pour moi? Un inconnu. Tandis que vous étiez, vous, l'adoration de ma vie. Puis, peu à peu, la pitié est entrée en moi. Et, avec la pitié, d'autres sentiments assez forts pour me faire souffrir, pas assez pour me pousser à me dresser devant vous pour vous dire « Celui-là, vous ne le frapperez pas. » Et lorsque j'ai compris que vous l'aviez condamné, je me suis contenté de pleurer en moi-même. Car vous avez pris sur moi un étrange pouvoir, Catherine. Vous n'êtes pour moi ni l'amante ni la reine. Vous êtes plus que tout cela. Vous êtes une pensée qui s'est installée dans mon cerveau, qui anéantit ma pensée et qui me fait agir. Je connais des exemples de pareils phénomènes. Je ne vous étonnerai pas en disant que j'ai lutté pour vous chasser de moi-même. C'est en dernier, surtout, ayant consulté les astres et ne recevant que des réponses douteuses, je m'étais reprise à espérer. C'est vous dire que j'avais pris la résolution de me placer entre vous et lui et d'empêcher le meurtre de mon enfant. Tout à l'heure, madame, si vous aviez essayé de le frapper, vous n'y eussiez point réussi, car je croyais alors qu'il devait vivre. Maintenant, je sais qu'il doit mourir. » Une contraction nerveuse rida le visage de l'astrologue. Catherine hocha la tête, très calme en apparence. « Superstition !» murmura-t-elle tout bas. Ruggieri y entendit. « Vision diverse, madame. Vous voyez ceci et je vois cela. Si vous avez une vision, vous l'appelez fantôme. Si j'ai une vision, je l'appelle corps astral. » « Je te crois, René, je te crois !» fit sourdement Catherine en jetant autour d'elle un regard inquiet. Car cette femme si forte et qui dominait si entièrement l'astrologue était à son tour dominée par lui dès que Ruggieri abordait les problèmes d'occultisme. Un changement étrange s'était fait dans la physionomie de l'astrologue. Son visage avait repris quelques couleurs, mais en même temps, il s'était comme pétrifié. Ses yeux, légèrement convulsés, avaient ce regard en dedans qui transforme si complètement la figure humaine. Catherine frissonna de terreur. « Oui, reprit lentement l'astrologue, lorsque le ciel se refuse à me répondre, lorsque les problèmes que je pose d'après les données sidérales aboutissent à l'insoluble, parfois la question que j'ai posée aux invisibles puissances me parvient par une autre voie. C'est ce qui vient d'arriver. Voici ce que j'ai vu, Catherine. Vous étiez près de la meurtrière, et moi, j'étais à cette place. Toute mon attention se portait sur vos bras. La bague que vous avez à l'index brillait doucement dans la nuit, et je ne la quittais pas des yeux. Car ainsi, je pouvais surveiller votre main, et si votre main se fût portée sur votre poignard, je l'eusse arrêtée. Tout à coup, mon regard s'est troublé. J'ai cessé de voir la bague et la main. À la même seconde, j'ai reçu comme une légère secousse dans le crâne et ma tête, d'elle-même, s'est tournée vers la meurtrière. À ces signes, il m'était impossible de ne pas reconnaître que j'étais en communication avec l'invisible. Mon regard se glissa donc à travers la meurtrière. Remarquez que je ne pouvais pas voir mon fils de la place où j'étais. Pourtant, je l'aperçus distinctement. Il était à une vingtaine de pas en avant de la meurtrière et se trouvait à 7 ou 8 pieds en l'air. Il flottait, pour ainsi dire, dans une atmosphère brillante qui formait un violent contraste avec les ténèbres environnantes. Lui-même brillait d'un étrange éclat dans toutes les parties de son corps. Il appuyait sa main sur son sein droit. Cette main lentement retomba, et à la place où elle était, je vis une large blessure par laquelle s'échappait à flots un sang pareil à du cristal en fusion et non pas rouge comme le sang des hommes. Mon fils flotta ainsi devant mes yeux pendant près de 2 minutes, et nos regards se sont rencontrés. Je ne sais ce que le mien pouvait exprimer d'horreur et d'angoisse, mais le sien n'exprimait que tristesse. Puis, peu à peu, ses contours sont devenus moins précis. La forme s'est confondue jusqu'à ne plus être qu'une vapeur légère. La lueur s'est éteinte, la vision s'est évanouie, puis rien. La voix de Ruggieri était tombée au plus bas pendant ces derniers mots et n'était plus qu'un murmure indistinct. Lorsqu'il se tut, il continua de fixer dans l'espace ses yeux hagards. En proie à une sourde terreur, Catherine se leva comme pour fuir, pour échapper à cette sensation du vertige qui s'emparait d'elle. Mais le seul mouvement qu'elle fit pour se lever rompit le charme. Elle se secoua comme pour se décharger de l'inutile fardeau des terreurs vaines. Ses yeux pleins de défis dardèrent leur regard d'une étrange clarté sur le point que fixait l'astrologue. Ses nerfs se tendirent. Son visage, dans cet instant rare où elle consentit à être elle-même, prit une expression d'audace et de cruauté formidable. Elle apparut comme la descendante des vieilles races d'aventuriers, comme un condottiere à qui la nature eût donné par erreur le sexe féminin. Son front se chargea de volonté. Son buste, alourdi par l'âge, parut prendre une sveltesse de lutteur. « Mon mari ! » gronda-t-elle entre ses dents. « Jurez que je sentais la mort ! Soit, par le corps du Christ, il me plaît de sentir la mort. Il me plaît d'être celle qui passe en laissant un sillage de cadavres, puisque pour dominer, il faut frapper. Vision, ombre, fantôme, démon, ange, je ne vous crains pas. Je suis des vôtres, moi. Puissances invisibles qui venaient de me prévenir, je vous remercie. Marie-Anne doit mourir, qu'il meure. Charles doit mourir, lui aussi, qu'il meure. Anges et démons, vous m'aiderez à placer sur le trône le fils de mon cœur, mon bien-aimé Henri. » Catherine esquissa un rapide signe de croix et toucha l'astrologue au front du bout de son doigt glacé. Ruggieri fut secoué d'un tressaillement. Ses yeux convulsés reprirent lentement leur position normale. Il passa les deux mains sur son front. « René, dit-elle, tu vois bien que le ciel lui-même condamne cet homme. » « Notre fils !»« Eh bien, laissons sa destinée s'accomplir. Ne nous mêlons pas de discuter les arrêts prononcés par les puissances. Il sait que je suis sa mère, et c'est pour cela qu'on le condamne. » Catherine disait « on » parce qu'elle ne savait pas au juste si elle devait dire Dieu ou Satan. « On le condamne alors que je rêvais pour lui d'un avenir royal. N'en parlons plus, René. Mais l'autre... Cette femme qui sait aussi, tu viens d'entendre, Jeanne d'Albret connaît ce secret. Et celle-là, René, c'est moi qui la condamne. Je la tiens. L'insensé s'est prise à la toile que patiemment j'ai tissée. Viens, René, viens, je veux t'expliquer toute ma pensée. Je rêve de nettoyer d'un seul coup le royaume que je destine à mon fils. Je rêve de rétablir l'autorité de Rome pour consolider l'autorité de mon Henri. J'ai sondé Coligny, j'ai sondé le Béarnais, j'ai étudié tous ces seigneurs qui encombrent la cour et la ville de leur morgue. René, je te le dis, tous, depuis leur reine jusqu'au dernier gentilhomme, Tous ont le germe de la révolte. Ce n'est pas seulement contre l'Église qu'ils s'élèvent comme une menaçante barrière. L'autorité royale de France leur pèse. Là-bas, dans leurs montagnes, ils ont pris des habitudes d'indépendance et plus d'un se dit huguenot qui est tout bonnement révolté. René, si je ne détruis pas la réforme, c'est la monarchie elle-même qui sera quelque jour réformée. Commençons donc par frapper à la tête. Jeanne d'Albret, c'est la tête du protestantisme. Jeanne d'Albret connaît mon secret. En la supprimant, je me sauve et je sauve l'Église et l'État. Viens, René, viens, mon ami. Ta douleur paternelle trouvera quelque consolation à préparer la mort de cette femme. Et puisqu'elle se prétend la mère de Marillac, puisqu'elle l'a appelé son fils, il est juste que la mort ne les sépare pas. Ayant ainsi parlé, Catherine de Médicis entraîna Ruggieri hors de la tour. Ne devions-nous pas examiner les astres ? Fit celui-ci.
Cet examen devient inutile. Je sais ce que je voulais savoir.
Ils traversèrent de biais la partie des jardins où ils se trouvaient et parvinrent à un petit bâtiment d'allure élégante placé à une centaine de pas de la tour. Il se composait d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Catherine l'avait fait construire pour servir de logement à son astrologue. C'était une gracieuse maison, briques et pierres blanches, avec balcon ventru en fer forgé, le tout dans le goût de l'époque et à la dernière mode. Une belle porte cintrée en chêne, ornée de gros clous à tête, des fenêtres à vitraux délicats, une façade contre laquelle grimpaient des rosiers touffus, achevaient de donner à cette demeure une apparence de coquetterie. On eût dit l'hôtel de deux nouveaux époux. Ils entrèrent et, tout de suite après l'antichambre, ils pénétrèrent dans une pièce très vaste qui occupait toute l'aile gauche du rez-de-chaussée. Sur une grande table étaient déployées des cartes célestes dressées par Ruggieri lui-même. Les murs disparaissaient derrière les rayons de chêne qui supportaient des volumes reliés, les uns en bois, les autres en peau armaturée de fer. Toute la bibliothèque de l'astrologie se trouvait réunie là. Et c'est cela qu'abritait la jolie maison Renaissance. La reine et l'astrologue ne s'arrêtèrent que quelques instants dans le cabinet de travail poussiéreux et sévère où Ruggieri s'était hâté d'entrer, comme s'il eût voulu éviter d'être entraîné dans une autre partie de la maison.
« Allons dans ton laboratoire !» dit Catherine.
Ruggieri eut un frémissement, mais obéit. Ils traversèrent à nouveau l'antichambre et Ruggieri, faisant manœuvrer trois serrures compliquées, finit par ouvrir après 10 minutes de travail une lourde porte renforcée de barres de fer. Derrière cette porte s'en trouvait une autre, et celle-ci était toute en fer. Elle n'avait aucune serrure. Mais Catherine elle-même, ayant appuyé fortement sur un imperceptible bouton, la porte s'ouvrit, ou plutôt s'écarta, laissant de chaque côté la place suffisante pour le passage d'un homme. La pièce où ils entrèrent alors occupait l'aile droite du rez-de-chaussée. L'air y pénétrait par deux fenêtres, mais en dedans des jolis vitraux que nous avons signalés, d'énormes barreaux de fer défendaient l'entrée de ce sanctuaire, tandis que d'épais rideaux en cuir, soigneusement tirés, le protégeaient contre tout regard qui fût parvenu à percer les vitraux. Ruggieri alluma deux flambeaux de cire et la salle apparut alors. Tout le panneau du fond était occupé par le manteau d'une cheminée assez vaste pour former à elle seule comme une pièce distincte. Sous ce manteau, deux larges fourneaux étaient dressés. À chacun d'eux aboutissait le bout d'un soufflet de forge. Ils étaient encombrés de creusets de différentes grandeurs. 5 ou 6 tables placées çà et là supportaient des cornues de toute taille, des éprouvettes, des alambics. Dans une armoire, une centaine de bocaux contenaient des poudres et des liquides. Sur une planche, une collection de masques en verre ou en treillis d'acier. Dans un coin, un certain nombre d'objets de diverses natures étaient placés sous une vitrine. Sur un signe de Catherine, Ruggieri ouvrit la vitrine au moyen d'une clé qu'il portait suspendue à son cou, sous son pourpoint. Catherine se pencha et murmura.
« Choisissons. Qu'est-ce que cette aiguille, René, cette jolie aiguille d'or ?»
René s'était penché lui aussi.
René s'était penché lui aussi. Leurs deux têtes se touchaient presque. Celle de Catherine, à ce moment, était hideuse parce qu'elle riait. Au repos, la tête de la reine présentait un caractère de sombre mélancolie qui n'allait pas sans grandeur. Quand elle souriait, elle parvenait à être gracieuse, comme au temps de sa jeunesse, où son sourire avait été chanté par tous les poètes. Mais quand elle riait d'une certaine façon, elle devenait effrayante. Quant à Ruggieri, une singulière transformation s'était opérée en lui. Il n'y avait plus ni crainte, ni douleur, ni inquiétude sur son visage, où éclatait le sauvage orgueil du savant qui contemple son œuvre. « Cette aiguille, » dit-il avec un sourire d'affreuse modestie, « cueillez un fruit, madame, par exemple une belle pêche bien mûre et dorée. Enfoncez cette aiguille dans sa chair savoureuse. Voyez, l'aiguille est si mince qu'il sera impossible d'apercevoir la trace de son passage dans le fruit. D'ailleurs, le fruit n'en sera nullement gâté. Seulement, la personne qui aura mangé cette pêche sera prise dans la journée de nausées et de vertiges. Le soir, elle sera morte. Ha ha ! Et ce liquide épais dans ce flacon, ce liquide qui ressemble à de l'huile ? C'est en effet de l'huile, madame. Si, lorsqu'on prépare la veilleuse de votre majesté, on mélangeait 12 ou 15 gouttes de cette huile à l'huile de votre veilleuse, votre majesté s'endormirait comme d'habitude, sans éprouver ni angoisse ni malaise. Seulement, elle s'endormirait un peu plus vite que d'habitude, et elle ne se réveillerait plus. Admirable, René ! Et cette série de minuscules flacons ? Tout simplement des essences de fleurs, ma reine. Voici la rose, voici l'œillet et voici l'héliotrope, puis l'essence de géranium. Voici la violette, voici l'oranger. Vous vous promenez dans vos jardins avec un ami et vous lui faites remarquer la beauté d'un rosier, par exemple. Votre ami admire et demande à cueillir une rose. Il l'accueille et la respire. C'est un homme mort si, la veille, vous avez fait une légère incision à l'arbuste et si, dans l'incision, vous avez versé 10 gouttes de cette essence. Vous pouvez aussi vous contenter de verser une goutte sur la fleur que vous offrirez. Le parfum de la fleur n'est pas modifié, puisque chacune de ces essences possède le parfum lui-même. Très joli, René. Et ces cosmétiques ?
Ce sont des cosmétiques ordinaires, madame. Voici le noir pour les sourcils et cils. Voici le rouge pour les lèvres. Voici la pâte pour étendre sur le visage. Voici les crayons pour donner de la vivacité aux yeux. De simples et ordinaires cosmétiques. Seulement, la femme qui aura employé cette pâte ou ces crayons sera prise dans les 2 jours qui suivront de violentes démangeaisons à la figure et bientôt un ulcère se produira qui ravagera le plus beau visage.
Ah, ce n'est pas pour tuer alors ?
Eh, madame, on tue une jolie femme en lui prenant sa beauté.
Tout ceci est trop foudroyant, murmura Catherine. Qu'y a-t-il là, de l'eau ?
Oui, madame, de l'eau pure, sans goût, sans saveur, sans odeur, sans parfum, de l'eau qui n'altérera en rien l'eau ou le vin, ou le liquide quelconque avec lequel vous l'aurez mêlé, dans la proportion infime de 30 à 40 gouttes pour une pinte. « Ceci, madame, c'est le chef-d'œuvre de Lucrèce, c'est l'aquatophane. »«
L'aquatophane !» fit sourdement la reine.
« Un pur chef-d'œuvre, je vous dis. Vous disiez, non sans raison, que l'effet de tous ces poisons est trop foudroyant. Je comprends qu'il est des cas où il faut agir avec quelque prudence. L'aquatophane, limpide comme du cristal, ne laisse aucune trace de son passage dans le corps de l'être quelconque, animal ou homme, qui en aura bu. Cet homme, s'il a eu l'honneur de dîner à votre table, et si son vin a été additionné de cette pure eau de roche, s'en retournera chez lui très bien portant. Ce n'est qu'un mois après qu'il commencera à éprouver quelque malaise, une angoisse spéciale. Peu à peu, il lui sera impossible de manger. Une faiblesse générale s'emparera de lui, et 3 mois après le dîner, on l'enterrera en terre chrétienne, car je ne suppose pas qu'un autre comme bon chrétien puisse être admis à votre table.
« Merveilleux !» dit Catherine. « Mais trop long !» Venons-en donc à l'honnête moyenne. Je suppose que vous soyez en contact demain avec celui ou celle qui vous gêne. Dans combien de temps voulez-vous que la gêne soit supprimée ? Catherine réfléchit une minute et dit « Il faut que Jeanne d'Albret meure d'ici 20 ou 30 jours, pas plus, pas moins. » « La chose est possible, madame, et la victime va nous en fournir le moyen. Choisissez sur tout ce rayon d'ébène. » « Ce livre est un livre d'heures, madame, livre d'une essentielle utilité entre les mains d'une catholique, missel précieux pour le travail des fermoirs d'or et de la reliure d'argent. Il suffit de le feuilleter. » « Mais Jeanne d'Albret est protestante, » interrompit Catherine. « Cette broche. » « Un admirable joyau. Malheureusement, elle est difficile à fermer. » « Alors ?» Alors, il arrive que la personne qui s'en sert force le ressort pour fermer et, en forçant, elle se pique au doigt, piqûre insignifiante qui fait se déclarer en 8 jours une bonne gangrène. « Non. Ce coffret, qu'est-ce ? » « Vous le voyez, madame, un coffret ordinaire, pareil à tous les coffrets du monde, avec cette différence pourtant qu'il a été ciselé par d'habiles artisans et qu'il est en or massif, ce qui en fait un présent vraiment royal. Et puis, il y a une deuxième différence. Ouvrez-le, madame. » Catherine, sans la moindre hésitation, ouvrit. Un autre que Ruggieri eut tressailli devant une preuve d'aussi absolue confiance. Mais il y était habitué. « Voyez, madame, reprit Ruggieri, l'intérieur de ce coffret est doublé en beau cuir de cordoue. » « Je vois, dit la reine. Et alors ? » ?»« Alors, madame, ce cuir de cordoue, qui est à lui seul un objet d'art, gaufré qu'il est selon les méthodes secrètes de la tradition arabe, ce cuir est légèrement parfumé, comme vous pouvez vous en assurer. » Catherine, sans hésitation, aspira le parfum d'ambre qui se dégageait légèrement de l'intérieur du coffret. « Il n'y a aucun danger à respirer ce parfum, reprit le chimiste. Seulement, si vous touchiez ce cuir, si vous laissiez votre main dans ce coffret pendant un temps suffisant, soit 1 heure environ, les essences dont il est imbibé se communiqueraient à votre sang par les pores de la peau, et dans une 20aine de jours, vous seriez prise d'une fièvre qui vous emporterait en 3 ou 4 jours. Très bien, mais quelle vraisemblance y a-t-il que je laisserai ma main dans ce coffret pendant au moins 1 heure ? À défaut de votre main allant trouver le cuir de cordoue, le cuir ne peut-il pas lui-même venir trouver votre main ? Je vous offre ce coffret. Vous lui donnez une destination quelconque. Il vous servira par exemple à renfermer l'écharpe que vous mettez à votre cou, les gants qui vont s'adapter à votre main. L'écharpe, les gants séjournent dans le coffret. Leur vertu est dès lors aussi efficace que la vertu même de ce cuir. L'écharpe que vous mettez autour de votre cou, les gants que vous mettez à vos mains, seront les messagers fidèles de la volonté de mort que j'ai enfermée dans ce coffret. « Voilà un vrai chef-d'œuvre, » murmura la reine. Ruggieri se redressa. Son orgueil de chimiste trouvait dans ce mot la récompense de son patient labeur. « Oui, dit-il, c'est là mon chef-d'œuvre. J'ai mis des années à combiner les éléments subtils capables de s'adapter à la peau comme à la tunique de Nessus. J'ai veillé des nuits et des nuits, j'ai failli 100 fois m'empoisonner moi-même pour trouver cette essence qui se communique par le toucher et non par l'odorat ou par le palais. Ici, plus de blessures apparentes qui laissent deviner d'où vient le mal. Plus de fruits ou de liqueurs à absorber. Dans ce coffret redoutable, j'ai enfermé la mort que j'ai ainsi réduite à l'état de servante docile, muette, invisible, méconnaissable. Prenez-le, ma reine, il est à vous. Je le prends, dit Catherine. En effet, elle referma soigneusement le coffret et s'en empara. Elle le garda un instant dans ses 2 mains levées à hauteur de ses yeux et murmura « Dieu le veut !» Comédie ? Peut-être, car la reine était une comédiante extraordinaire. Mais peut-être aussi fanatisme inconscient de cette femme qui rêvait quelque monstrueux carnage pour établir l'autorité de Dieu. Catherine et Ruggieri quittèrent le laboratoire après que le savant astrologue eut soigneusement refermé sa vitrine. La reine, cette nuit-là, coucha dans son hôtel. Elle s'endormit, apaisée, souriante, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps.